Les femmes et les non-blancs, ayant crié assez fort, on leur a finalement consenti le statut d'opprimé. Mais on ne pense pas encore aux enfants, car ils se taisent.
Voilà, vous êtes sur Radio Klaxon, le 107.7, et là on fait, on passe une heure, voire un peu plus, avec des personnes qui sont là pendant 3 jours, et qui viennent du GREA, mais pas seulement. Du coup, on est plusieurs dans le studio, je vais vous les présenter. Alors, il y a 2 personnes du GREA.
Du coup, moi, je suis Minou. Voilà, je viens de l'Aveyron et je viens pour passer 3 jours à la ZAD.
Voilà. Et après, il y a une autre personne du GREA aussi qui est là aussi pendant 3 jours.
Voilà. Voilà, bonjour. Donc, moi, c'est Daniel. Pour l'instant, je viens du Poitou. Charente-Limousine, plus précisément. Et je suis là. J'ai été là avec Minou pendant quelques jours pour qu'on puisse échanger autour de l'éducation, entre autres. Et de la scolarisation, de la non-scolarisation. Voilà.
Et puis, on a Banane. Peut-être tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, qui t'es. Non, il est très timide.
Hein. Non.
Allez.
Non.
Bon, peut-être plus tard.
Plus tard.
Et il y a Mélissa qui est avec nous.
Oui, bonjour. Moi, c'est Mélissa Plavis, la maman de Banane. Alors, moi, je suis venue à la ZAD pour ces 3 jours de rencontre du GREA, mais parce que je m'intéresse au lien entre non-éducation et écologie. Mais je vais laisser Minou présenter peut-être le GREA avant de présenter ce que je fais et le livre que j'ai écrit à ce sujet-là.
Oui, alors on va faire un moment peut-être de présentation du GREA, de savoir pourquoi vous êtes là sur la ZAD, comment est née cette idée-là, qu'est-ce que vous portez, c'est quoi cette idée de tournée aussi que vous faites dans plusieurs lieux.
Ça marche. Bon, alors du coup, en fait, le GREA, c'est à l'initiative, en fait, c'est le CREA. C'est le cercle de réflexion autour de l'éducation authentique qui a été initié par Jean-Pierre Lepris, donc un ancien de l'éducation nationale, et qui a monté ce cercle de réflexion parce que ben, pour lui, tout n'est pas rose autour de l'éducation et il se posait pas mal de questions. Et nous, on en a fait le GREA, donc groupe de réflexion autour de éduquer et apprendre. Et on essaye de se faire la vie belle avec ce monde qui n'est pas forcément beau. Et notre entrée, en fait, c'est l'éducation. Donc, on va le voir tout à l'heure. Enfin, peut-être même, je peux même l'aborder maintenant, en fait. Qu'est-ce que c'est que, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, autour de l'éducation, en fait, qui nous paraît une banalité, en fait, et quelque chose de bien a priori. Nous, on s'est aperçu, et on n'est pas les seuls, hein, et moi, je porte pas grand-chose, en fait. Je me fais plutôt la voix de plein d'auteurs et de gens qui existent depuis longtemps, d'autres qui sont morts. L'éducation, en fait, hein, c'est plutôt conduire. Ça vient d'outiré aqueduc, duc, conduire. Et en fait, c'est l'action de conduire quelqu'un. Donc, une éducation, elle n'est pas forcément bonne en soi. C'est vraiment l'action de conduire quelqu'un. Et généralement, on rajoute pour son bien derrière. Donc déjà mettre en lumière que l'éducation, c'est pas anodin, c'est l'action sur l'autre et qui nous mène à tout un tas de totalitarisme et de dérives. Et mettre aussi en lumière ce que c'est que apprendre. Parce que sous couvert des apprentissages, généralement, j'éduque ou je fais éduquer quelqu'un d'autre. Sachant que l'éducation est vraiment prise dans son sens large, c'est conduire quelqu'un dans le couple, c'est dans la famille, c'est à l'école, c'est dans la société, au boulot, c'est... Voilà, je peux la rencontrer n'importe où. Donc apprendre, on essaye de mettre en lumière qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et apprendre, c'est prendre avec soi. Et c'est aussi simple que respirer ou vivre, parce que vivre, c'est apprendre. Et apprendre, c'est vivre. Donc ça paraît un peu en bloc très simplé. Mais finalement, de là va en découler une posture au monde qui m'est vraiment plus agréable, en tout cas. Une posture qui change du schéma classique dominant-dominé qui m'est présenté quand je nais dans ce monde. Cette espèce d'asymétrie entre des éducateurs et des éduqués, des dominateurs, des dominés, des colonisateurs, des colonisés. Puis on peut continuer la liste longue, longue là derrière. Et quelque chose qui m'est présenté comme naturel et qui, en fait, est une construction mentale et qui m'est imposée en naissant dans ce monde-là. Donc à partir du moment où je sais qu'apprendre c'est inné et que l'éducation c'est vraiment une action sur l'autre, est-ce que j'ai envie de continuer dans ce schéma? Et voilà, du coup on se retrouve là-dessus et on essaye de se faire la vie belle en prenant conscience. Voilà, c'est un peu cercle de réflexion donc ouvert à tous. Et pour ce faire, donc, je continue à donner un peu d'informations hein, pour ceux qui veulent. On organise des rencontres thématiques. Voilà, ça, on en a fait sur la justice en éducation, donc l'injustice. On en a fait sur la socialisation en matière d'éducation, parce que souvent on dit bah, si vous éduquez pas, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces jeunes? Ils seront pas du tout sociables. Et là, cet été, on organise une rencontre autour du père. Qu'est-ce que c'est que le père? Cette construction-là, et comment me faire la vie belle? Belle la vie avec ce que j'ai hérité, ce dont j'ai hérité. On édite chaque mois ou tous les deux mois une lettre d'info. C'est Léa, voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire ou vous désinscrire d'ailleurs. Et là-dedans, on met vraiment tout un tas de recherches, de liens. On essaye un maximum de que ça soit très riche en nourriture pour que chacun puisse y trouver matière pour son avancée. Et il y a plein de vidéos en ligne, il y en a plus d'une centaine, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire, il y a des relais aussi un peu partout en France. Il faut savoir que c'est pas vraiment une association, on y rentre, on y sort. L'asso, elle nous sert juste à porter en fait le mouvement pour que tout le monde puisse avoir accès à un autre son de cloche qui est vraiment pas celui qui m'est présenté en ce moment de par le monde. Ah oui, du coup le site gréalavie.org ou alors educationauthentique.org, voilà.
Et vous êtes combien dans ce réseau, plus ou moins? J'imagine c'est difficile, mais c'est juste pour avoir l'idée de combien de gens s'abracent, combien de gens il y a autour.
En fait, il y a quand même 19 000 receveurs de la lettre, parce qu'après, entre le moment de recevoir et après l'ouvrir, la lire, la comprendre et aller au-delà. Donc ça fait 10 ans en fait que ça existe et ça a évolué, parce que pour en arriver là, en fait, on a quand même pas mal écrémé les préjugés et voilà. Donc c'est aussi la possibilité de voir l'évolution d'une réflexion quand on reprend les différentes lettres d'information. Et au niveau du noyau vraiment dur, tout ce qui est site internet, etc., et notamment aller rencontrer les personnes qui en ont envie, qui nous invitent, donc dans des festivals, ici à la ZAD. Merci d'ailleurs pour l'invitation. On doit être une douzaine, quinzaine. Et les rencontres, généralement, on est autour de 80. Voilà.
Ok, je ne sais pas si il y avait une envie d'ajouter autre chose. Moi, je voulais savoir un peu c'est quoi les prochaines dates de prévues, pour que les gens sachent s'il y a moyen de vous rejoindre sur d'autres rendez-vous.
Bon, alors du coup, je vais vous dire, on participe à un colloque, la coopération et éducation, donc ça c'est plutôt la version freinée sur Bordeaux du 10 au 12 juillet. En août, on a cette rencontre en Ariège autour de du père. Qu'est-ce que c'est que le père? Voilà, donc ça c'est en Ariège au-dessus de Foix du 12 au 15 août. Fin août, on participe à la conférence européenne sur les écoles démocratiques à Paris. Et début, on va dire juste, on va s'arrêter à septembre parce qu'il y a plein de dates et vous pouvez trouver vraiment des moyens de nous retrouver donc sur le site. Et à Paris, c'est du 19 au 21 juin, 21 août. Et j'ai dit à Montpellier, en septembre, du 21 au 23, on participe à un espèce de gros machin un peu financier qui s'appelle Néo Bien-être, l'école de la vie. Et là, c'est vraiment pour toucher un plus large public.
Et c'est quel type de public que vous touchez? Vous avez l'impression que c'est très différent? Vous arrivez un peu à comprendre c'est qui s'intéresse le plus à ces démarches-là? Où il n'y a pas de profil type? J'imagine qu'il y a plein de gens différents, mais est-ce que vous arrivez un peu à avoir une vision de ça?
Au niveau des gens qui s'intéressent à tout ça, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a un profil type, on peut dire quand même qu'il y a une sorte de sensibilité qui est commune. Moi, je dirais, il y a le souci écologique qui apparaît très souvent chez les gens qui viennent. Des interrogations aussi sur les systèmes de pouvoir. Après, au niveau des professions, c'est quand même assez large, quoi. Ça va de l'artisanat, du petit artisanat à l'enseignant ou l'enseignante. Enfin, c'est très variable.
Mais en termes de formation politique, par exemple, ou... est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre où il y a de tout et c'est une sensibilité qui traverse plein de personnes?
En écoutant les gens, c'est vraiment... Si on parle d'écologie politique, alors peut-être que ce seraient des gens qui seraient sensibles à l'écologie politique, mais c'est vraiment grossièrement dit. En plus, je crois qu'il y en a certains qui ne seraient pas du tout d'accord. Donc, c'est très difficile de...
En fait, c'est surtout des gens qui sont en recherche. Ouais. Et là où on va rencontrer des personnes, c'est parce qu'en fait, ils sont en recherche d'une meilleure éducation. Ouais. Ils trouvent que le système qui est en place ne leur correspond pas. Et la première étape, en fait, et c'est là qu'on va rencontrer un maximum de public, c'est comment je pourrais faire pour améliorer le système. Donc c'est un peu par erreur. Quand on se rencontre, c'est un peu une espèce d'erreur. Et finalement, quand on dit y a pas de recette, mais c'est vraiment le schéma en place qui est mauvais, qui va pas, il y a un dysfonctionnement, là on peut avoir d'autres personnes. Mais il y a quand même un public d'éducateurs, il y a un public de professeurs, d'enseignants, où il y a un mal-être et qui se présente à ce genre, au démarrage en tout cas dans la rencontre.
Alors, il y a Banane qui voulait intervenir. Alors maintenant, tu peux parler, qui gigote, qui a envie de parler. Alors vas-y, tu peux nous raconter ce que tu avais envie.
Je vais pas à l'école.
Comment ?
Je vais pas à l'école.
Ah, et pourquoi tu vas pas à l'école ?
Pourquoi d'autre ?
Qu'est-ce que tu veux ?
Pourquoi d'autre ?
Parle dans le micro, sinon on t'entend pas.
Si tu as envie de dire quelque chose, tu dis ce que tu veux.
Je ne vais pas te dire ce que tu veux dire.
Peut-être tu peux le redire. Quand tu as une autre chose à dire, tu nous fais signe. On met une chanson.
Où est-ce qu'on habite ?
Allez, on fait une petite pause musicale. Comme ça, on verra si Banane a envie de nous raconter autre chose après. Et on va revenir pour parler du livre de Mélissa. Et, voilà. Et plus. Restez avec nous sur Radio Klaxon 107.7.
C'est coupé.
Jamais squatter la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Tcha tcha, où les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, tcha tout le monde. Allez, pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. D'improviser à chacune de mes courses dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Aller dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, en éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde, des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets.
Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part.
rien, car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un traître. Crois dans mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, fume depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Et bah, vous êtes toujours sur Radio Klaxon, c'est les 107.7 et on est toujours avec deux personnes du Gréa, Banane et Mélissa, qui est là pour nous raconter son dernier bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Il s'appelle Apprendre par soi-même, avec les autres et dans le monde, l'expérience du unschooling. Alors peut-être je peux dire juste un mot sur le unschooling. C'est, alors j'ai Banane qui me gigote et qui veut parler.
Peut-être.
Alors,
tu veux Banane, dire une chose avant,
tu veux dire
comme
chose
ça après
avant
la médecine.
Tu veux dire où tu habites
On habite à l'église.
Ah waouh, à l'église. Ah, j'étais pas au courant. oui, du coup, le unschooling, en fait, c'est. Le fait de ne pas scolariser ses enfants ni à l'école ni à la maison. L'idée, c'est que dans les... Alors vas-y, dis deux mots et ensuite je peux parler.
Mon père habite à une autre maison.
Peut-être c'est pas obligé de raconter
loin.
Toute ta vie, non.
Bah non. J'ai pas besoin.
Donc pas trop de détails, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Des fois, il y a des gens qui sont pas forcément sympas. Comme des flics.
Ouais.
Vaut mieux pas donner trop de détails, mais tu peux raconter des choses.
Les flics, ils surveillent.
Voilà, ça on sait.
Oui, donc le unschooling, le fait de ne pas scolariser ni à l'école ni à la maison, parce que donc l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est de 6 à 16 ans. Et donc dans les familles qui sont en instruction en famille, il y a différents types de modalités, si on peut dire. Il y a des gens qui vont suivre des cours par correspondance, et puis il y a ceux qui vont enseigner à la maison, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire la forme scolaire, mais à la maison, avec un emploi du temps imposé, un programme imposé. Voilà, du coup, il n'y a pas tellement de modifications, sauf que c'est pas à l'école et que c'est à la maison. J'ai pas besoin du casque. L'idée du unschooling, c'est de laisser les enfants libres de leurs apprentissages, libres de vivre simplement, puisque comme le disait Minou tout à l'heure, apprendre c'est vivre, vivre c'est apprendre. Et donc on n'impose pas, enfin les parents n'imposent pas, ni de programme, ni d'horaire. Voilà, et puis on vit simplement et les jeunes et les moins jeunes apprennent de la vie, des nécessités de la vie, des projets qu'ils peuvent mettre en place par intérêt, des rencontres qu'ils font, quelles qu'elles soient, humaines ou autres. Voilà, de venir à la ZAD, c'est aussi riche de plein de choses, de rencontrer des façons de fonctionner différentes, l'autogestion et tout, c'est chouette. Et voilà, du coup, moi, dans mon bouquin, j'ai voulu mettre en avant le lien entre cette non-éducation et l'écologie parce que donc pour moi donc l'écologie c'est la science, enfin c'est l'étude des relations entre des êtres hétérogènes et à partir du moment où on prend conscience que les relations sont nécessaires pour la résilience, et ben on va vouloir en prendre soin pour plus de résilience. Et du coup, ça va être prendre soin des relations à l'environnement, mais on en fait partie hein, de cet environnement, fait partie de l'écosystème, et donc prendre soin aussi de la relation aux autres et de la relation à soi. Et donc, de ce que j'ai pu, de mes réflexions, de mes lectures, de mon expérience personnelle, parce que je suis moi-même maman donc, de 4 enfants qui sont en unschooling, j'ai voulu... J'en ai déduit qu'en fait, le unschooling, c'est pas qu'un mode d'instruction, c'est un mode de vie et un mode d'être. C'est une attitude, en fait, qui vise à sortir de la domination, mais en tant que dominant. Alors, dis quelque chose, Banane.
Pas Banane.
Comment tu t'appelles ?
Elissane.
Elissane.
Et aussi, Lou.
Sortir de la domination en tant que dominant. On sort de la domination de la nature. Si on pense qu'on est maître et possesseur de la nature, non, c'est un peu sortir de ce schéma-là, de se penser en son sein, et que du coup on sort de la domination. Je suis très perturbée parce que Banane me sollicite beaucoup. C'est très difficile pour moi, donc je reprendrai la parole après.
Est-ce que tu voudrais jouer avec moi ?
Alors, est-ce que on fait un moment de pause imprévu et peut-être on peut...
Si tu veux,
oui. On fait un moment de pause, on passe une chanson peut-être et on revient.
Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall.
Oh, do it again.
All in all, you're just another brick in the wall.
A point.
Teachers, leave them kids alone.
is the area of a rectangle whose length is 1 centimeter.
Et ben vous êtes toujours sur Radio Klaxon et on est toujours avec Mélissa et des personnes du GREA qui sont invitées. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez intervenir. C'est le 07 53 38 06 70. Et n'hésitez pas à nous envoyer des textos ou nous appeler si vous avez envie de poser des questions ou des commentaires. Du coup, on en était où ?
Ben en fait, on parlait du unschooling. Alors, si vous voulez, moi, je peux aussi juste rajouter que cette posture, en tout cas, de non-éducation, une posture de relation, en fait, qui serait plutôt reconnaître l'autonomie en chacun des êtres vivants. Bon, là, on parle des êtres humains. En interdépendance juste, ça a déjà existé en fait. Parce que en France, là, on nous bassine avec l'éducation et avec l'école, mais c'est un épiphénomène sur l'histoire de l'humanité. Avant, il n'y avait pas d'école et les gens y vivaient. Sur notre planète, il y a encore des cultures et des endroits où il n'y a pas d'éducation dans la relation entre les êtres humains. Et aujourd'hui, c'est ce dont parlait Mélissa tout à l'heure, il y a des parents et des gens qui décident de ne plus être dans ce schéma-là. Donc, Mélissa, si tu veux poursuivre là-dessus. En tout cas, on parlait que l'apprentissage est inné. Donc, apprendre, ça veut dire prendre avec soi. Il n'y a que moi qui peux apprendre. On aura beau essayer de m'inculquer des choses, on aura beau essayer de me forcer. J'apprends quand ça a du sens, j'apprends quand ça me fait plaisir, quand j'ai de la joie. Et je ne peux pas apprendre tout seul, complètement isolé du monde. Donc, j'apprends des autres. J'apprends en interdépendance. Voilà, et on a rajouté, en fait, juste, parce qu'en fait, il y a des relations qui sont toxiques et qui me polluent la vie. Et donc, voilà, c'est une posture qui m'est désagréable. Et c'est pas plus compliqué que de se laisser vivre, en fait, de contribuer au flux et de se laisser aller dans le flux de la vie. Donc, est-ce que je continue à me pourrir la vie et à freiner, à m'empêcher, à empêcher les relations entre les gens, notamment à travers l'éducation et la domination? Ou alors, est-ce que je trouve autre chose ?
Et moi, j'avais l'impression que, peut-être je me trompe, en vous entendant il y a 2 jours, du coup, ici à la ZAD, ça parlait pas mal de l'idée du milieu, du contexte. Est-ce qu'on peut reprendre ça ? Parce que je trouve intéressant et en même temps, je trouve limité dans le sens où qu'est-ce qu'on fait ou c'est quoi notre marge de manœuvre s'il n'y a pas le bon contexte ou le bon milieu.
Ce serait quoi un bon contexte et un bon milieu?
Ben, par exemple, si le contexte, parce que j'avais l'impression que l'idée du milieu, c'était c'est le milieu dans lequel on vit, qui transmet les valeurs, qui donne les envies d'apprendre. Mais si, par exemple, je suis obligée de vivre en ville, de bosser, et du coup, dans un milieu qui est hostile pour les valeurs qu'il porte, comment faire à ce moment-là, quoi?
En fait, moi, je dirais qu'on apprend toujours, quel que soit le milieu, mais on n'apprend pas la même chose selon le milieu. Si je suis dans un milieu hostile, je vais apprendre à survivre dans ce milieu et je vais développer des aptitudes qui peuvent être favorables à ma survie, mais défavorables à mon épanouissement. Voilà. Alors que dans un milieu qui sera favorable à ma liberté, favorable à ma curiosité naturelle, je ne vais pas avoir besoin de développer des stratégies tordues pour survivre, simplement je vais vivre harmonieusement avec mon milieu, harmonieusement, c'est-à-dire dans une sorte de paix. Et là, j'aurai ma vie, ben oui, ma vie, elle sera belle, quoi.
Et est-ce qu'on peut répéter le nom du livre et comment on peut le trouver ? Est-ce que tu as un blog, Mélissa, ou une façon de te joindre pour poser des questions ?
Le livre, c'est Apprendre par soi-même, avec les autres et dans le monde. L'expérience du unschooling, c'est paru en mai aux éditions Myriadis, M-Y-R-I-A-D-I-S, pardon. Pour me trouver, ben, faut taper Mélissa Plavis dans son moteur de recherche préféré, pour n'en citer aucun. Je suis assez facilement joignable. Ouais. Et moi, je veux bien rebondir sur le milieu. Si le unschooling est une pratique ou une non-pratique, un mode d'être ou de vie qui serait écologique, c'est au aussi parce que les apprentissages, justement, se font dans le milieu et pas dans un laboratoire, par exemple, si on compare aux expériences scientifiques qui peuvent se faire dans le milieu ou en laboratoire, et si on considère que l'école, du coup, ce serait vraiment un endroit qui serait séparé de la société, finalement. Elle fait partie de la société, mais en même temps, finalement, les enfants évoluent dans un endroit où ils sont tous du même... Enfin, je parle dans une école traditionnelle, ils sont tous du même âge, avec un seul adulte. La proportion, en fait, des âges est pas respectée par rapport à ce qui existe simplement dans la vie, quoi. Par exemple, là, sur les 3 jours dans la ZAD, bon, bah, y a des tout jeunes, des bébés, des bambins, des plus grands enfants, des ados, entre guillemets, des personnes plus âgées, des adultes, entre guillemets aussi. Et moi, du coup, j'ai l'impression que on apprend effectivement pas du tout les mêmes choses, comme disait Dani. Et justement, souvent, on pense que le unschooling, c'est les apprentissages informels. Oui, alors quand on fait du unschooling, c'est-à-dire moi, je suis en apprentissage informel. Donc les apprentissages informels, c'est les apprentissages non volontaires et non conscients. Or, des apprentissages informels, on en fait toujours, peu importe où on est. Et même si on est à l'école, alors qu'est-ce qu'on apprend informellement à l'école ? Eh ben, alors bon, moi, j'ai un peu... Je critique un petit peu l'école de manière radicale. Donc, je pense qu'on apprend à être soumis. Et puis, quand on est bien soumis, qu'on sait bien répondre aux attentes, parce qu'on a bien compris le système, ensuite, on peut dominer. On apprend à consommer, on apprend à produire. Et je reviens, parce que Banane a besoin de sa maman.
D'accord. Merci.
Bah, du coup, en fait, je peux rajouter aussi, enfin, continuer sur ce que disait Mélissa, au niveau du milieu, en fait. Je vous cite une petite phrase du coup de Jean-Pierre Lepry, là, qui a passé un grand moment à l'éducation nationale et qui a écrit aussi des bouquins, notamment La fin de l'éducation, Commencement, et qui a aussi écrit pas mal de livres sur la lecture. Qu'est-ce que c'est que l'acte de lire et puis comment peut-être faciliter l'apprentissage de la lecture. Donc je pense que ça répond bien à l'histoire d'apprendre dans le milieu. Tout ce que j'apprends, je l'apprends seul. Personne ne l'apprend à ma place. Et je l'apprends en fonction de mon milieu. C'est donc le milieu qui devient déterminant. Et je suis un élément important du milieu, de mon éventuel éduqué, de la personne qui m'accompagne. Si je me sentais investie d'une mission d'éducation, le meilleur service que je pourrais alors lui rendre, ce serait de m'occuper de moi. Seulement de moi, et non de lui. C'est là, à notre sens, l'erreur majeure de la pédagogie et sa marque de totalitariste. J'offrirai ainsi à mon éduqué un milieu plus conforme à mes désirs, vis-à-vis duquel il va se construire. Ce retour à soi n'est pas un repli sur soi, ni l'indifférence. C'est la recherche d'une assise solide et plus juste pour mieux me couler dans le flot de la vie et y retrouver, au-delà de mon désir de vivre une vie bonne. Il n'y a donc surtout pas à remplacer l'éducation par quoi que ce soit. J'ai seulement à vivre bien, c'est-à-dire à me couler dans le flux de la vie et non à le contrarier, à quelque moment que ce soit, où que je sois et avec qui que je sois.
J'aurais juste une question. Je suis désolée parce que tu l'as peut-être dit au début, mais qui est-ce que c'était Jean-Pierre Lepry ?
Alors Jean-Pierre Lepry, en fait, c'est un ancien, on va dire, instituteur. Il a passé 50 ans à l'éducation nationale. Il a gravi les échelons. Il a été inspecteur d'académie, maintenant hors classe. Il a été expert consultant pour l'UNESCO. Et du coup, ben lui, il y croyait dur comme fer. Il était dans la machine et il voulait l'améliorer. Donc il a vraiment été zélé à essayer de trouver les meilleures méthodes pour l'épanouissement des plus jeunes. Et au fur et à mesure, ben, il a pris conscience, mais il a fallu qu'il sorte du système. Et c'est là qu'il dit, mais moi, si j'avais su ce que je faisais, concrètement, si j'avais fait le lien entre mon action et la relation écrasante de dominant-dominé et le mal que ça peut faire à l'heure actuelle, on voit juste les guerres qui continuent, le nombre de morts, etc., ben, je ne l'aurais pas fait. Voilà, et du coup, maintenant, il est à la retraite et voilà, c'est...
Moi, je revenais sur l'histoire de milieu parce que ça m'avait brassé d'imaginer. D'accord, l'apprentissage, il peut pas être quelque chose qui se force dans la personne, parce que si on fait pas quelque chose volontiers avec le plaisir, on va, c'est pas ça une, la façon où on peut vraiment apprendre.
Enfin, si on apprend quand même, on peut être tout, on peut être dans le non plaisir, voire même dans le déplaisir, et apprendre à survivre en fait. Mais c'est ça qu'on apprend. Ça va pas être autre chose. On va simplement apprendre à survivre.
Et oui, hier en discutant, je disais ah mais comment on fait si en fait on a un style de vie, on habite à la ville, on est obligé d'aller bosser, notre enfant il est obligé d'aller à l'école, et en fait on est constamment en train de se battre contre pour essayer de forcer des valeurs qui sont pas les valeurs que l'école ou la société va donner. Et du coup ça va faire une espèce de
d'incohérence ou en tout cas de schizophrénie. Bon après on est nombreux à vivre la schizophrénie, hein. C'est je pense que vraiment ce qui m'a soulagée, moi, c'est la posture de voir qu'il n'y a pas d'idéal. De toute manière, il n'y a pas d'idéal à rechercher. Et je fais avec ce qui est. Donc déjà, qu'est-ce qui est réellement ? Donc je suis obligée de travailler, comme tu disais, par exemple. Je suis en ville, etc. Ça ne me semble pas le mieux. Et du coup, le plus juste, moi, l'attitude que j'ai trouvée la plus juste, et notamment avec mes jeunes, c'est de pouvoir leur dire, bah, écoutez les gars, là, maintenant, je peux pas faire autrement, je sens que je peux pas faire autrement, mais c'est pas le top. On n'est pas dans des conditions qui sont optimales à notre développement. Mais par contre, je fais au plus juste, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Et on construit ensemble, en fait, notre relation, malgré tout ce qui existe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, dans ma propre enfance, j'ai été lobotomisée, en fait. Mais par les rencontres, en faisant confiance aussi à la vie, et puis par le fait que des gens m'ont pas lâchée. J'ai peux choisir à un moment donné, mais qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on a fait de moi? Donc même si mes parents ils sont à côté de la plaque, même si la société est à côté de la plaque, j'arrive par les lectures, par les rencontres, à me nourrir et à regarder mes valises et à décider, et je pense que c'est là pour moi la seule liberté que j'ai, voilà, c'est très personnel, c'est de décider vers qui je vais m'orienter, de décider qui sont mes amis, de décider où je vais vivre, comment je vais me soigner, comment je vais m'alimenter, voilà. Du coup, il n'y a pas de recette, en fait. Mais s'il y a, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont en souffrance de leur situation, qui ne peuvent pas faire autrement, bah, c'est vraiment dans l'échange et de trouver des gens qui nous ressemblent pour ne pas finir complètement fêlés, quoi, dans une espèce d'aliénation sociale et seule, voilà.
Oui. Moi, j'aimerais simplement rajouter, il y a une phrase qui me revient. Ça n'est pas un bon signe de santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Et en fait, ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, ça passe aussi par des choix. Les rencontres permettent de s'ouvrir l'esprit sur des choses. Ça permet d'avoir une clarté de vision sur ce qu'on est en train de vivre. Et des fois, cette clarté de vision, à un moment donné, on dépasse les limites qu'on peut tenir et on se dit, ben, je change de mode de vie, par exemple. Enfin, moi, ça a été le cas. Et d'autres, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'une vie, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des moments où il y a une prise de conscience et ça peut basculer.
En fait, moi, je pense que ce qui m'aurait vraiment aidé quand j'étais enfermée dans le système scolaire, d'ailleurs, je croyais qu'on était obligé d'aller à l'école, quand même, j'aurais préféré autour de moi qu'il y a des personnes qui me disent « Je ne peux pas faire autrement, je comprends ce qui se passe pour toi et franchement, fais-moi un signe, on va essayer de créer quelque chose qui te correspond, qui nous correspond », plutôt que d'être laissé comme si ça allait de soi, de souffrir, d'être dominé, d'être dans la compétition et tout ça.
Voilà. Oui, d'être victime du déni, voilà. de la personne de référence, quoi, qui dénie la réalité, ma souffrance.
On fait une petite pause, on écoute une chanson et puis on va vous passer une lecture de Christian Rochefort et on va revenir avec vous. Du coup, restez sur Radio Klaxon et voilà, c'est Nirvana, elle s'appelle School, alors ça me rappelle beaucoup mon adolescence. Voilà. Alors, on a encore changé de programme. Christian Rochefort, la lecture, c'est pour plus tard, parce qu'on a à nouveau Mélissa avec nous, du coup, oui, on va en profiter.
Oui, je suis de retour. Oui, je disais du coup que les apprentissages informel se faisait quoi qu'il arrive et qu'effectivement, en fonction des milieux, on n'apprenait pas la même chose, hein, de manière informelle. Mais du coup, le unschooling, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas une question d'apprentissage informel ou pas. Effectivement, les parents qui proposent le unschooling, finalement, pensent que on peut... les apprentissages informels peuvent être suffisants pour devenir des adultes accomplis dans la société dans laquelle on est. Cela dit, le unschooling, c'est vraiment réacquérir son pouvoir d'agir, puisqu'on enseigne qui on est, pas nécessairement ce qu'on dit, mais qui on est. Si on récupère son pouvoir d'agir et si on cherche à sortir du pouvoir qu'on a sur les gens, de manière informelle, les jeunes et n'importe qui d'autre, les gens qu'on fréquente, vont s'imprégner et apprendre informellement que c'est possible. Et du coup, un enfant qui va être en unschooling ou un adulte, moi je me considère comme une unschooleuse, parce que j'ai aussi repris des études, vont pouvoir, pourquoi pas, demander d'aller à l'école ou aller dans une conférence ou rencontrer des gens ou demander en fait qu'il y ait une rencontre et un partage sur quelque chose qui sera beaucoup plus formel. Voilà. Et la différence, c'est que c'est sur une thématique précise ou une personne qui va enseigner au sens de montrer ce qu'elle sait, c'est une compétence ou un savoir, mais que ça va pas, il va pas y avoir l'idée que cette personne sait tout plus, mieux et pour l'autre, mais simplement qu'elle va partager un savoir-faire, une compétence qu'elle aura. Et que dans les 10 minutes qui suivent, peut-être que ce sera le jeune ou le moins jeune, en tout cas la personne qui va assister à cette séance, qui pourra proposer elle son savoir. Voilà. C'est vraiment un échange et un partage à un moment donné et qui est choisi. C'est l'autodirection en fait, ou l'autogestion, mais le terme gérer, c'est un peu un terme que parfois on me l'a fait remarquer beaucoup. Oui, mais la gestion, effectivement, on peut éventuellement en sortir de la gestion. Voilà.
Est-ce que tu voulais intervenir?
Mais non, mais du coup, en fait, ça me fait vraiment penser à la justesse de la relation. Là, tu as parlé de l'apprentissage adulte, ça se passe exactement de la même manière, ou l'apprentissage avec les jeunes, entre les jeunes, entre les adultes et les jeunes. Et du coup, cette question en fait de distinction de l'âge et de distinction en fait et de discrimination qui va se poser en fonction de l'âge. Alors, Dani, tu voulais peut-être...
Oui, parce que en fait, on considère quand même aujourd'hui dans nos sociétés que l'apprentissage se fait tout au long de la vie. C'est quelque chose qui est quand même admis. Et que on soutient le fait qu'un adulte qui est automotivé dans ses apprentissages va apprendre de manière plus pertinente, par assimilation, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout reconnu pour les enfants. Donc, il y a une distinction qui est faite entre adulte et enfant à ce niveau-là, qui me semble étonnante. Voilà, et du coup, moi, j'interroge ça, je me dis, mais pourquoi, même dans les recherches universitaires, c'est complètement admis, ça, mais pas pour les enfants. Et du coup, j'ai envie de regarder comment ça se passe. Et en fait, donc moi, je suis en anthropologie, et du coup, j'essaie de regarder comment ça se passe dans les familles, quelle parentalité, quelle relation entre parents et enfants, quelle relation entre parents... au pluriel, coparents ou non-parents, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que d'être parent et de vivre, puisqu'en unschooling, finalement, on vit ensemble, donc dans des collectifs, peut-être comme à la ZAD, justement, j'imagine que certains adultes qui ne sont pas parents, biologiquement parlant, finalement, vivent avec les enfants quand même et sont concernés par les questions d'éducation ou de non-éducation. Et voilà.
Tu vas le dire ? Oui, effectivement, je trouve qu'il y a quelques lignes de Christian de Rochefort qui sont assez intéressantes concernant cette situation. On reconnaît aux adultes, enfin aux dits adultes, cette capacité à l'auto-formation, à l'apprentissage, et on la reconnaît finalement très peu à l'enfant. Et donc je vais vous lire juste une petite minute. Le jeune cerveau, le plus complexe ordinateur sous le plus petit volume existant, est physiquement malléable. On peut y imprimer littéralement des codes, des mémoires, des relais de conditionnement, des informations justes et fausses. On peut y inscrire des ordres qui pourront opérer à retardement sous forme de mécanismes de répétition mystérieux au sujet lui-même. Bref, on peut faire joujou avec ce joli appareil.
Ah, ça, c'est une citation de Christian Rochefort, qui était aussi la première citation avec laquelle on a commencé l'émission. Et c'est de quel livre ?
Alors, c'est « Les enfants d'abord ». Et le sous-titre, c'est « De tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets ». C'était chez Grasset dans la collection Enjeu, et ça n'a jamais été réédité. Okay. C'est un bouquin, comme un certain nombre de bouquins de Christian de Rochefort, qui sont assez explosifs.
Et les enfants d'abord, du coup, justement, c'est une association nationale qui a une philosophie plutôt sans pédagogie, plutôt unschooling, et qui permet des rencontres entre les familles qui ne scolarisent pas, qui permet des échanges, qui soutiennent les familles dans leurs difficultés éventuellement juridiques par rapport à toutes les questions d'inspection qui peuvent éventuellement mal se passer, puisque l'éducation nationale, finalement, a un regard, puisqu'on a une obligation de déclaration à la mairie de notre domicile et à l'inspection d'académie, et du coup, on a une visite de l'inspecteur chaque année qui vient vérifier qu'une instruction est bien donnée à l'enfant et qu'elle est conforme aux droits de l'enfant. Et du coup, parfois, il y a des difficultés. Et voilà, l'association est là pour soutenir les parents.
Oui, parce qu'en plus, il y a eu vraiment une aberration. C'était un droit à l'éducation qui est devenu une obligation d'instruction en France. Donc, il y a pas mal de choses à creuser là-dessus. Il y a un guide juridique, effectivement, avec l'EDA, où on peut se référer. Puis, il y a aussi des familles qui décident de pas se déclarer. Et je pensais à ça, en fait. Je voulais intervenir parce que quand on pense à Christiane Rochefort, on pense à l'EDA, on pense aussi aux réseaux qui peuvent être anti-agistes. Donc, c'est des réseaux de personnes ou des actions, en tout cas, qui sont faites vraiment contre cette posture de discrimination en fonction de l'âge. Et donc, on rencontre des anti-agistes. Mais derrière ça, est-ce qu'on n'est pas en train de rencontrer de nouveau un totalitarisme en fait, d'attitude qui va nous dicter notre attitude ? C'est-à-dire, écoute, on est des égaux, t'es peut-être plus jeune, mais je suis pareil. Et t'as des besoins, mais moi aussi j'en ai. Écoute, t'apprends par toi-même, donc vas-y, débrouille-toi. Et finalement, on arrive à une situation qui peut être de l'abandon, qui peut être très mal vécue. Et surtout qui, pour moi, n'est pas une relation juste. La relation juste, c'est pas d'effacer la relation. C'est au contraire, c'est d'honorer la relation. Donc voilà, anti-agisme, ok, mais ça peut être anti-racisme, etc. Mais ça peut devenir un dogme et on peut le laisser sur le carreau des jeunes comme des plus vieux et arriver même à une maltraitance. Voilà, donc juste un petit bémol. Il n'y a pas de recette, quoi. Il y a vraiment peut-être à ajuster en fonction de ce qui me semble juste, de ma boussole et bien sûr de l'autre, puisque chacun fait sa part dans la relation.
Là, ça aborde plein de thèmes et comme tu parlais, Mélissa, des enfants d'abord, je vais peut-être vite fait, j'avais envie de poser la question de quelles sont les pistes pour des personnes qui s'intéressent à ce sujet. Qu'est-ce qui existe déjà en France ? Du coup, là, tu as parlé de cette association.
C'est la plus ancienne association.
Est-ce qu'il y a d'autres mouvements, groupes de réflexion, associations pareilles, à qui, tu vois, les personnes qui se posent ces questionnements-là peuvent... se diriger vers qui peuvent...
Mais en fait, il y a tellement de choses. Il y a des groupes locaux, il y a des mailing lists, je sais pas si... il y a des rencontres nationales, des rencontres régionales, il y a des tas de blogs.
Sur Internet, là, comment ça s'appelle Twitter ? Non, c'est pas Twitter.
Il y a des groupes Facebook, mais voilà, c'est voilà. Vraiment, en allant rechercher sur Internet, on trouve tout un tas de choses. Hein. Il y a énormément de livres aussi qu'on peut lire.
On va faire un point bibliographie peut-être.
Oui,
à la fin.
Je pense. Alors après, ça dépend si c'est des questions vraiment pratiques de comment est-ce que ici et maintenant je peux faire pour déscolariser mes enfants, me déscolariser moi-même, pas uniquement donc physiquement, mais mentalement. Moi je pense à des livres comme Une société sans école d'Ivan Illich. Je pense à Libre pour apprendre de Peter Gray.
Moi je pensais plus à un truc de se dire si je suis dans cette sensibilité-là, cette démarche-là, mais je suis toute seule. Je connais personne qui a entrepris ce chemin-là. Comment faire pour pas me sentir seule, pour avoir des billes, pour avoir...
Il faut appeler les relais LEDA. En fait, l'association LEDA a des relais. Moi, je suis relais du 78. Et en fait, sur le site, alors je connais pas l'adresse du site, mais les enfants d'abord, on doit trouver. Et en fait, dans plusieurs régions, il y a des relais qui répondent aux questions des gens. Donc, faut pas hésiter à les appeler ou à leur écrire un mail. Et normalement, vous aurez toujours une réponse. Et ils pourront vous orienter justement vers les groupes locaux pour rencontrer d'autres familles qui ont fait ce choix, qui ont des fonctionnements tout différents. Et puis, du coup, on peut s'en inspirer et faire ses propres choix qui semblent juste pour soi.
Et je voulais juste dire qu'il y a même au niveau international. Voilà, il y a aussi des relais dans des pays en Europe. Et il y a aussi plein d'études et de choses et des contacts qu'on peut avoir sur d'autres continents. Mmh. Voilà. Et d'autres législations, d'autres fonctionnements.
Et un petit détail concernant les groupes Facebook, il ne faut pas se fier au nombre de participants d'un groupe.
Les amis, non ?
Des amis ou des choses comme ça, parce qu'en fait, des fois, derrière un ami se cachent plusieurs familles. Et puis, il y a aussi les non-Facebookiens, c'est-à-dire des gens qui refusent d'être sur Facebook, mais qui sont en contact avec des gens qui sont sur Facebook. Et donc, du coup, ça peut on a l'impression qu'on est un peu seul dans son coin, on regarde Facebook, on dit « oh, bon ». Et non, il ne faut pas s'y fier. Il faut, en principe, il y a une tête de réseau, il faut la contacter, lui expliquer un petit peu où on en est, et en principe ça se passe bien.
On peut rejoindre des groupes aussi sans avoir demandé quoi que ce soit,
aussi,
juste en cliquant sur un bouton. Mais en tout cas, l'instruction en famille est vraiment en progression. Moi, en tant que relais, j'ai de plus en plus de familles qui m'appellent. Dans les réseaux locaux, les groupes sont de plus en plus nombreux, ça se développe vraiment.
Bon, après, je voulais juste dire qu'en face de nous, il y a 148 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Qu'au niveau de... Ça plombe un peu, désolé. Mais que, voilà, ça fait autour de 30 000 enfants qui seraient en instruction en famille. Et là-dedans, ben, on peut dire qu'il y a autour de 3 500 familles qui seraient plutôt sur du unschooling. Et donc, voilà, ça fait pas grand monde, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et surtout, les gens s'organisent. Donc voilà.
Oui, et ça me semble important parce que ces 148 milliards, ça donne une idée de la lourdeur du paquebot. C'est-à-dire que c'est une machine. Les 148 milliards, ils vont servir à maintenir la structure telle qu'elle est. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui ont envie de bouger, il n'y a que nous qui pouvons bouger, quoi, ça ne bougera jamais ce machin. Il ne faut pas s'imaginer aller... Enfin moi en tout cas, j'ai été enseignant et jamais, même pas une seconde, je me suis imaginé que j'allais pouvoir changer ce truc. Je n'avais déjà pas forcément conscience de ce qui s'y passait réellement et de ce que je faisais là réellement. Et maintenant, je sais très bien que c'est impossible, quoi.
Est-ce qu'on écoute du coup l'enregistrement de...
De Christiane,
oui. Du coup, c'est des morceaux de Les Enfants d'abord.
C'est un interview au sujet de son livre, en fait. Et du coup, c'est assez vivant.
Ok, ben, on va écouter ça. Ça dure 6 minutes, mais restez avec nous sur Radio Klaxon au 107.7.
Ce qui m'a pris tout d'un coup, c'est un sentiment d'urgence. C'est pour ça que j'ai fait un essai. Je me suis mise à plat moi-même avec ce bouquin. Et moi, autant vous dire que mon comportement avec les enfants a légèrement changé. Depuis le livre. J'aime pas les enfants en charrette comme ça. Non. Non, c'est du racisme d'aimer les enfants. J'ai beaucoup d'amis juifs, j'aime bien les noirs. Enfin, tout s'entend là comme ça. Non, moi j'aime pas tous les enfants. Il y a des enfants que j'adore, je trouve merveilleux, et puis des enfants qui me sont complètement indifférents. Je peux pas dire, il y en a même qui m'agacent, hein. Ce que je dis à propos de l'amour, c'est que l'amour dans l'autorité est faussé. Que l'amour dans l'autorité, ça n'existe pas. C'est une chose qui n'est pas vraie. Il faudrait vraiment dépouiller l'autorité pour voir l'amour. Hein? Tant qu'il y a l'autorité, on ne peut pas le voir, l'amour. Alors on ne sait pas s'il est là. Et il y a une confusion chez les adultes entre leur amour et le pouvoir qu'ils exercent. Quelquefois, ces deux choses vraiment n'en font qu'une. Et je connais des mères qui sont prises dans ce guépier. Alors bon, je sais qu'elles ont été prises dans ce guépier en tant que femmes. De même que des hommes ont été pris dans ce guépier en tant qu'homme et en tant que père. Je ne leur jette pas des pierres. Je les invite à prendre conscience. Et pour inviter à prendre conscience, je mets les termes à plat. Et je dis que une relation d'amour dans le pouvoir n'est pas une relation d'amour. On ne peut pas savoir où est l'amour là-dedans. Et qu'il faut d'abord dépouiller le pouvoir si on veut parler de l'amour. On n'a pas le droit de parler de l'amour tant qu'il y a du pouvoir. Voilà ce que je dis. Il y a des civilisations claniques où ça ne se passe pas du tout de la même manière. Au niveau justement des relations de pouvoir. Où il n'y a pas tellement de relations de pouvoir entre les enfants et les parents et les grandes personnes du clan. Par exemple, ça, on a des descriptions dans Margaret Mead, dans Malinowski, dans quelques ethnologues, dans Jolin, et puis dans un ethnologue américain dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom pour l'instant, et qui a fait une étude horizontale des méthodes d'éducation. Et c'est assez passionnant parce qu'on voit combien elles sont différentes, justement. Je trouve que l'éducation détruit. Et lorsque je dis que l'éducation autoritaire non réfléchi, non médité, non replacé dans son contexte politique, non consciente, non lucide, que cette éducation détruit, c'est pas moi qui détruis. Alors évidemment, c'est ce qu'on me dit. Ah, mais vous détruisez. Non, je dis, ça détruit. Alors, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je le dis comme enfant, moi. C'est-à-dire au nom des enfants, mais comme enfant moi-même. Je le dis comme enfant. C'est ce que j'appelle la famille collabo ou la famille complice, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas connaître la situation, leur situation dans la société, qui refusent de le reconnaître même si on leur met le nez dessus, et qui veulent exercer à tout prix leur autorité, qui aiment leur pouvoir. Il y a des gens comme ça. Vous savez qu'il y a plein de gens qui demandent des éducations plus sévères à l'école, rétablissement des châtiments corporels, qui est d'ailleurs rétabli récemment en Amérique et en Angleterre, hein. On ne progresse pas tellement, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des gens qui m'ont dit, et parmi ces gens des femmes, et parmi ces femmes des mères, qui m'ont dit, qu'est-ce que ton livre, il est déculpabilisant. Hein? Et puis d'autres qui m'ont dit, qu'est-ce qu'il est culpabilisant. Ou d'autres qui ont réagi comme des gens que je culpabiliserais. Ça prouve bien à quel point la situation est chaude là-dessus, et ça m'a confirmé, moi, que, bon, tant pis, il fallait le dire. Je crois que le clivage entre les gens qui réagissent comme culpabilisés ou comme attaqués et les gens qui réagissent comme déculpabilisés et soulagés, c'est l'attachement au pouvoir qu'on exerce ou pas. Les gens qui ont un pouvoir, cette bribe de pouvoir qui est souvent la seule qu'on a sur les enfants et qui ne sont pas conscients que c'est un pouvoir et qui appellent ça de l'amour, qui n'empêche pas qu'il y ait de l'amour là-dedans, mais allez donc le voir. Ces gens-là, ceux qui sont attachés à leur pouvoir, réagissent comme attaqués. C'est pas compliqué. On peut pas échapper aux pressions sociales et à la façon dont tout le monde se comporte dehors et à cette violence et à toutes les images de violence qu'on voit, qu'on permet de voir aux enfants. On ne leur permet pas des images qui pourraient les pousser à l'autonomie. C'est celles-là qui sont interdites, hein, de quelque nature que ce soit, sexuelle ou pas. Mais par contre, on laisse à leur portée toutes les images de la violence, de la concurrence, de la compétition. Là, ils sont encouragés à ça. Comment voulez-vous faire pour élever un enfant dans ces conditions? C'est pas possible. Vous savez bien que tous les parents qui ne donnent pas de jouets militaires à leurs gosses les réclament. Et qu'est-ce que vous voulez faire? S'il les leur refuse, ça va les bloquer encore plus. Hein, les enfants qui sont élevés d'une manière permissive se sentent dans une insécurité telle qu'ils demandent de l'autorité parce qu'ils se sentent parmi les loups. Ils sentent qu'ils sont pas de taille ou ils sentent qu'ils sont pas protégés puisque, alors vous avez un petit garçon qui arrive et qui dit mon papa, il va venir casser la gueule à ton papa si tu m'entends. Bon. Alors s'il a un papa qui casse pas la gueule et qui est non violent, là, il se dit je suis pas protégé. Vous savez, c'est pas facile du tout. Je sais pas du tout comment je m'y prendrais, moi. Et j'ai aucun conseil à donner là-dessus. Et en parlant comme ancien enfant, puisqu'il y a des lettres là, les lettres des enfants aux parents dans ce livre, en parlant comme ancien enfant, je dis écoutez, tant qu'il s'agit d'éducation, nous on n'est pas concernés. C'est dans un respect de la personne que je vais. Essayons donc de parler aux enfants sur un ton normal, sur le même ton qu'on emploie pour parler à ses copains ou enfin aux gens qu'on connaît. Il n'y aurait pas de statut de mineur, par exemple. C'est une supposition, voyez-vous, par exemple. Il n'y aurait pas de statut de mineur. Haha. Moi, ça va. Ça va pour moi, ça. Pas de statut de mineur. J'aurais pas peur pour eux. J'appellerais ça une recherche de l'essentiel et un retour à la vérité. Je suis obsédée par ce qui pourrait être. Est-ce que c'est une évasion? Je suis obsédée par ce qui pourrait être et qui n'est pas. C'est au fond assez simple d'être vivant, de se sentir vivant, de jouir de ses sens et de jouir du fonctionnement de son cerveau et de ça, et de son invention et de tout ce qu'on a tous. Thank you.
Alors, ce qui m'a pris tout d'un coup, c'est un sentiment. Sur Radio Klaxon, toujours le 107.7. Et on vient d'écouter une interview de Christian Rochefort, qui est entre autres une figure importante du féminisme. Qui avait fait partie du MLF et elle avait pas mal milité pour la dépénalisation de l'avortement. On avait un autre bout à vous lire aussi, toujours un extrait de Les enfants d'abord. Peut-être on n'est pas prêt et prête. Il y avait une question dans l'entretemps de Camille qui nous a rejoint dans l'entretemps.
Alors j'aurais voulu savoir, pour les parents qui sont sur la ZAD et qui nous écoutent, si ceux qui scolarisent leurs enfants, pourquoi est-ce qu'ils les scolarisent au lieu de leur faire du homeschool ou les laisser en liberté ici à la ZAD, en apprentissage informel ?
Eh bien, c'est une question pour des parents de la ZAD.
Une question d'une jeune homeschooleuse, finalement.
Ouais.
Oui.
Je vais répondre en vous rappelant.
Et donc, suite à cette question, oui.
Peut-être on peut s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, on peut les inviter à nous rejoindre au studio radio pour répondre à cette question ou nous envoyer un texto au 07 53 38 06 70.
Voilà. Et en fait, parmi les lettres que Christiane Rochefort a imaginées de ses enfants qui écrivaient à leurs parents, il y en a une qui est intéressante. Chers parents, pour sortir du piège où on vous a jeté, vous avez une solution claire, c'est de prendre notre parti. Cela implique que vous vous tourniez contre celui que vous avez jusqu'ici servi, étourdiment peut-être, et dont vous tenez votre pouvoir sur nous et l'approbation du monde. Direz-vous que c'est beaucoup demandé ? Mais puisque vous parlez si volontiers de vos sacrifices, en voilà un justement qui pour nous vaut quelque chose. C'est le seul que nous demandons. Et nous l'échangerons avec joie contre tous les autres. Et puisque vous parlez tant de notre protection, voilà l'occasion de nous protéger pour de bon, contre un danger réel et non pas des fantômes. Vous et tout le monde n'avez ces temps-ci à la bouche que notre bonheur. Entendez-vous par là notre anesthésie pendant qu'on nous opère et qu'on nous arrache l'âme ? Regardez-y d'un peu plus près. Votre démission, qu'on vous reproche tant, nous la voyons, nous, non pas dans le retrait de votre autorité, mais dans la non-intervention à nos côtés, contre ceux qui nous menacent. La non-intervention, c'est de l'abandon. Allez-vous enfin nous défendre ? Si vous nous aimez, comme vous nous le dites, vous alliez à nous serait nous en donner la seule preuve qui vaille. Et nous lâcher serait celle de votre indifférence. Vous voici donc obligés d'être honnêtes. N'ayez pas plus peur qu'il ne faut, le risque n'est pas mortel, comme pour le soldat qui retourne son arme. Il est à peu près nul, car les stratégies douces ne sont pas les moins efficaces. En fait, vous risquez principalement de prendre conscience, peut-être même de reprendre vie. Pour les modalités pratiques de votre soutien, au cas où vous seriez prêt à nous le donner, nous avons des idées. Nous pourrons en discuter ensemble quand vous voudrez. Mais tout de même, ne traînez pas trop. C'est une course contre la montre où nous sommes engagés. Vous, avec nous, que vous le vouliez ou non. Si vous nous laissez prendre, vous serez pris aussi sous la violence qui se prépare. Notre salut est votre chance, en fin de compte. Pensez-y. Vos filles et fils encore vivants.
Merci. Et on se disait que... Je me trompe peut-être, on voulait faire... Tu faisais un lien avec le féminisme.
Alors oui, en fait, c'est un texte d'après, c'est le prochain. Je suis désolé. Ah. Où en fait, Christiane de Rochefort établit un lien... entre les femmes, les enfants et l'oppression, un lien qui est assez intéressant et qui, de l'avis d'un certain nombre de féministes, est libérateur.
Bah, peut-être on peut le lire vu qu'on parle de ça. Ou vous,
moi, je, Je parle aussi d'écoféminisme dans mon livre, où justement l'idée de l'écoféminisme, c'est vraiment de sortir de toutes les dominations et non pas de rejoindre le modèle de l'homme blanc, si on peut considérer un modèle tel que, donc ni d'inverser les solutions, ni d'oppresser les autres finalement, parce que si à un moment donné, c'est compliqué à expliquer comme ça, surtout quand je suis fatiguée, les femmes, enfin, comme je dis toujours en fait, moi j'ai pas envie d'être soumise ni à un homme, ni au capitalisme, et parce que finalement, rejoindre ce modèle-là, être l'égal de l'homme dans le modèle tel qu'on le voit aujourd'hui dans nos sociétés occidentalisées, finalement, c'est devenir oppresseur sur peut-être les femmes du Sud ou les enfants. Enfin, de toute manière, l'oppression se décale. Et donc, l'idée, en tout cas de ce que je comprends de l'écoféminisme, c'est sortir de toutes les dominations et donc les refuser. Et ça rejoint évidemment le unschooling. C'est pour ça que pour moi, le unschooling, ou en tout cas l'instruction en famille n'est pas antiféministe et surtout pas le unschooling, c'est écoféministe. Parce qu'on va, on va pas reproduire en fait la domination qu'on refuse de subir, mais qu'on se permet de faire subir aux autres.
Chère mère, allez-vous à la fin comprendre que nous sommes sur le même bateau, vous et nous, que nous avons les mêmes maîtres, que nous sommes attachés à la même corde par les mêmes nœuds. Nous voulons dire vous, toutes les femmes, et nous, tous les enfants. Quand vous mettrez-vous à aimer les enfants? Car non, vous ne les aimez pas. Des enfants, vous parlez en termes de trésor, ou alors de gêne. Vous acceptez l'idée qu'ils sont votre bénédiction, ou bien votre oppression, en tout cas, votre. C'est l'idée du maître que vous acceptez là, que les enfants sont votre lot. Ainsi, ils vous enchaînent à eux, et les enchaînent à vous. D'une laisse, deux esclaves. Et les enfants deviennent des symboles, petits pénis symboliques, dit le maître, et en réalité, symboles de votre défaite sociale. Enfants charge, enfants revanche, enfants compensation. Pas enfant-enfant, pas une personne. Croyez-vous qu'on ne le sent pas? On ne se sent pas aimé et on se sent une chose, un objet. Non, tu ne m'aimes pas, chère maman. Tu peux le crier sur les toits. Ce que tu cries, c'est encore « au secours !» Tu t'es investi en moi tout entière, vidé en moi. Retourne-toi et regarde qui t'a vidé de toi-même. C'est le même qui veut me tuer. Quand cesserez-vous, mère, de nous utiliser pour compenser votre mutilation au lieu de regarder en face ceux qui vous mutilent? Quand cesserez-vous de nous voir comme des prolongements ou des chaînes, pour nous voir comme des êtres qui ont leur vie et s'appartiennent à eux-mêmes? En nous possédant, vous vous faites avoir, et du même mouvement, vous nous livrez. Finissez avec le faux amour et commencez le vrai, détachez-nous. Ne serre pas le nœud, aide-moi à le défaire, laisse-moi aller, casse ma laisse qui t'entrave avec moi. Débarrasse-toi de ton lot. Arme-moi et envoie-moi vivre. Laisse aller le tien et consent à nous aimer tout comme des sœurs et des frères à nos pressions. Fais cause commune, enfin. Nous ne serons pas libres sans votre aide et vous n'aurez pas votre liberté sans la nôtre. Lorsque, cessant de nous tenir, chacune son lot, son objet trésor à elle, vous nous parlerez de personne à personne, d'opprimé à opprimé, seulement là, nous pourrons affronter ce qui nous ligote ensemble. Toutes les femmes, tous les enfants, tous ceux qui les aiment, comme des personnes. Vous et nous, c'est la même résistance. Et l'amour entre nous, seul véritable présent, c'est l'alliance. Quand on en sera là, on pourra commencer à parler de l'amour. Salut, vos mômes.
Pourrait-on jouer
à la récré, à la récré? À quoi pourrait-on jouer
si on joue à la main? semelle, la semelle d'un soulier. On a un pied plus léger, un pied plus léger que l'autre, ou alors il faut changer.
Un pied plus léger que l'autre, ou alors il faut changer.
À la récré, à la récré, à quoi pourrait-on jouer? Moi je ne pourrais pas suivre. Si on joue à la délo, j'aurais sûrement trop chaud, ou j'aurais mal à la tête, mal au ventre ou mal aux pieds.
Ou j'aurais mal à la tête, mal au ventre ou mal aux pieds.
À la récré, à la récré, à quoi pourrait-on jouer? Cache-cache, y en a toujours qui se fâchent. Si on joue à chat perché, je vais sûrement tomber. Et puis si on joue au foot, j'aurai jamais le ballon.
Et puis si on joue au foot, j'aurai jamais le ballon.
À la récré, à la récré, à quoi pourrait-on jouer? Que l'on invente un jeu qui toujours contente les filles et puis les garçons, les durs et les mollassons. Quoi c'est la cloche qui sonne, déjà fini la récré?
Quoi c'est la cloche qui sonne, déjà fini la récré?
À la récré, à la récré, on n'a pas le temps de jouer.
À la récré, à la récré, on n'a pas le temps de jouer.
Ben voilà, il y a de plus en plus de monde dans le bus. Ça se peuple. Qu'est-ce qu'on fait arrivé à ce point-là? Moi, j'avais envie de parler un peu de bibliographie à un moment, d'avoir un peu de quelques, pas forcément un million de bouquins, mais d'en avoir quelques-uns à proposer aux personnes qui s'intéressent, ou vos coups de cœur, vos conseils.
Du coup, ben, moi, je donne une information, c'est vraiment La fin de l'éducation de Jean-Pierre Lepris. Fin de l'éducation, commencement, qui fait une espèce de balayage, en fait, sur ce que c'est vraiment l'éducation, et quelles sont les finalités, en fait. D'un fin, c'est la fin, les finalités. On nous a toujours dit que c'était bien l'éducation, et en fait, qu'est-ce qui se cache là derrière? Et la fin, c'est-à-dire, ben voilà, et si on commençait à ne plus éduquer? Et donc, voilà, c'est les différentes postures pour d'un autre monde, un autre paradigme. Voilà. Ivan Illich, tu l'as dit tout à l'heure. Mais...
Ouais, je parlais d'Ivan Illich. Mais moi, il y a un livre que j'ai qui a profondément marqué mon chemin. C'est Le concept du continuum de Jean Lidloff, qui est une femme qui a vécu avec des Amérindiens. Et je sais pas comment raconter, c'est juste fabuleux. On change de paradigme complètement dans la confiance qu'on a en soi, qu'on a en les enfants, dans comment on vit ensemble. C'est absolument incroyable, c'est un autre paradigme. Et des familles qui parlent du unschooling, elles montrent comment en fait c'est le unschooling, c'est simplement le prolongement d'un maternage ou d'un parentage proximal, qu'on utilise beaucoup ce terme, que moi je dis proximal et écologique, qui vivent. Alors j'aime bien aussi parler des liens qui libèrent, parce que finalement, allaiter son enfant, le porter en portage physiologique, dormir près de lui, et en fait, c'est prendre soin de la relation, être présent et disponible pour répondre aux besoins des enfants tout en ayant les bras grands ouverts, c'est-à-dire sans les empêcher d'aller et de revenir. Et finalement, le unschooling, c'est simplement la continuité de ce maternage proximal et écologique. Et si on emploie ce terme de unschooling, c'est simplement parce que dans nos sociétés, à un moment donné, que ce soit à 3 ans ou à 6 ans, les enfants sont censés aller à l'école, et que finalement tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont petits, on dit non, maintenant c'est différent, les apprentissages vont faire différemment, alors que en fait non. Et on se rend compte qu'il y a un cheminement chez la plupart des parents qui sont unschooling. Parfois c'est venu dès le premier enfant, puis parfois au deuxième, parfois au troisième. Les familles avec qui j'ai des entretiens, c'est assez flagrant. Et du coup, la déscolarisation est arrivée suite à une naissance différente, une parentalité différente dès le plus jeune âge.
Bon, du coup, il y a un livre aussi que je recommande s'il y a des personnes qui s'intéressent à la lecture. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment lire? Et puis, comment aider notamment à entrer dans la lecture, enfin à peut-être l'apprentissage de la lecture. C'est aussi un livre de Jean-Pierre Lepris et ça permet de voir que s'il restait encore une petite niche à l'intérieur de moi-même qui m'autoriserait en fait à agir et même qui me guiderait à agir sur l'autre pour qu'il apprenne à lire, et ben même ça, même la lecture se vit de manière organique. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas de technique de lecture, il y a juste voir et comprendre. Donc je sais que dans mon parcours de maman notamment, voilà, il y avait encore ce hic en me disant, ben ok, je lâche sur ça, je lâche sur les cheveux sales, je lâche sur la brosse à dents, je lâche sur l'endroit de se coucher. Je me fais belle la relation aussi avec mes jeunes, mais j'avais des peurs par rapport à l'apprentissage de la lecture. Et ça m'a fait du bien en fait de voir que ça aussi, on apprend à lire en lisant, comme on apprend à relationner en relationnant ou à nager en nageant. Voilà.
Oui, alors moi, il y a un livre qui m'a... Parce qu'en fait, les livres qui ont été cités ont été aussi des livres qui m'ont beaucoup marqué, mais bon. Donc moi, je vais m'autoriser quelque chose qui est un petit peu à côté, mais qui n'est pas sans lien avec tout ça. C'est un livre de Daniel Everett. Je crois que c'est Le Monde ignoré des Indiens Piraha. Et en gros, là, encore une fois, c'est quelqu'un qui fait un travail anthropologique, mais qui n'est... Enfin, c'est un anthropologue un peu spécial, j'en dis pas plus, qui va découvrir une population, une petite population d'Indiens, dont il découvre peu à peu qu'ils ont un rapport au temps qui est un peu particulier. Et c'est des gens qui, en fait, n'ont pas vraiment d'histoire, en fait. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Et ils vivent comme ça, et ça questionne beaucoup notre société à nous. Et ensuite, notre livre qui s'appelle Zoomia, le sous-titre c'est
Ou l'art de ne pas être gouverné de Scott.
Voilà, et alors là c'est passionnant parce que c'est un petit peu la description d'une population plus ou moins hétérogène qui vit en Asie, mais en fait qui se replie, on va dire, dans les montagnes, qui font des petites excursions en bas, mais voilà, c'est des incursions juste pour s'il y a besoin, et qui en fait un rapport très particulier avec l'écrit, avec les livres. Ils ont une culture écrite apparemment, et ils l'ont abandonnée. Et ils ont trouvé là une manière, entre autres choses, hein, parce qu'ils ont un mode de vie très particulier, par exemple par rapport à la prise de pouvoir. Hein, dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de prendre le pouvoir d'un groupe, hop, il y a scission. Et donc ils ont un rapport particulier à cette culture écrite, qui fait que on a là encore un regard de profil sur notre société à nous à travers ce que eux mettent en place, et l'art de ne pas être gouverné, bon, c'est intéressant.
Est-ce que vous avez d'autres...
Moi, je pense au livre de Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille, où il partage son expérience de la permaculture. Et à un moment donné, il fait un lien justement avec l'éducation. Et j'en parle également dans mon livre. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir faire ce lien, toujours le lien entre nom d'éducation et écologie. Qu'est-ce que le non-agir? Et tu en parlais tout à l'heure, Minou. Est-ce que justement, c'est de l'abandon? Et donc, il parle d'une expérience où là, il a considéré que... Non, ce n'était pas du non-agir, c'était simplement de l'abandon, parce que finalement, il y a une transition qui est nécessaire. Et cette question de la transition, de la même manière que la transition écologique, elle est super importante, parce que quand on déscolarise, on ne peut pas passer même quand on se déscolarise nous-mêmes en tant qu'adulte, on ne peut pas passer d'une vie où on est dirigé, où on dirige directement à aucune... aucune direction. Et du coup, la question de la transition, elle est vraiment super importante.
C'était une image là que j'ai entendu que vous avez proposé. Comment on fait pour déconstruire si on ne sait pas comment ce qui est ancré en nous a été construit? Ça m'a vachement plu, cette image, de me dire, en fait, si tu déconstruis et que tu n'as pas compris c'était quoi qui avait construit en toi, tu vas juste tout ravager, quoi. Tu vas te trouver sans aucun outil, sans rien. Et je trouvais assez bien de le dire à ce moment-là.
Bah, on dit souvent que la prise de conscience, c'est 50% du chemin, non ? Donc, effectivement, c'est une fois qu'on prend conscience des choses, qu'on peut chercher à les déconstruire et à faire autrement et à vivre autrement. Et je pense que l'expérience ici à la ZAD, elle en témoigne.
Après, moi, je mets un tout petit bémol avec déconstruire parce que pour moi, je peux pas me déconstruire parce que ça fait mal. Mais par contre, la prise de conscience, c'est regarder les valises, quoi. Une fois que je l'ai regardé, ben, qu'est-ce que j'en fais ? Du coup, c'est plus ça peut être en douceur. Ou ça peut être violent, il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas me déconstruire. Je viens de mon enfance comme je viens d'un pays. J'aurais beau renier ou j'aurais beau essayer de tout casser, c'est moi. En fait, c'est aussi moi. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce qu'on a fait de moi ? Et j'ai pour ça il y a beaucoup de témoignages en fait de personnes et notamment de jeunes qui étaient scolarisés et qui sont sortis de l'école et qui vont passer vraiment une phase pas de dépression mais une phase en fait de farniente, une phase de recontacter avec sa boussole, recontacter avec soi. Et là où je suis plutôt optimiste, donc je sais que nos idées elles seront jamais unanimement prises, mais elles disparaîtront pas. Et que, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Et que, de toute manière, il y a un élan de vie en chacun. C'est comme si un peu on avait un ordinateur, on va dire plutôt un GPS. Excusez-moi pour la métaphore, elle n'est pas hyper bucolique. Donc un GPS avec une destination, c'est la vie. Donc on est embarqué là-dedans. Puis il y a plein de possibilités, quoi. Donc je peux prendre des chemins de traverse, je peux aller sur le côté. De toute manière, cette destination, c'est la vie, je suis en vie. C'est très dur d'ailleurs d'arrêter la vie, c'est très dur de me tuer, c'est très dur de me suicider, c'est très dur. Il y a cette vie qui est en moi. Et quoi que je fasse, il y a quand même cette boussole qui me ramène. Alors ok, j'ai été vrillée par mon éducation, j'ai été vrillée par tout ce schéma de dominant-dominé qui est sur moi. Mais je suis en vie et j'ai un souffle qui revient. Et au fur et à mesure, c'est ça à prendre, c'est que j'affûte, je perçois ma boussole, je perçois mon orientation. Et par la confiance et l'interrelation avec l'environnement et les autres, et ben voilà, j'apprends quoi ? J'apprends en tombant, moi aussi, et j'apprends en soi-disant faisant des erreurs, mais c'est ça, apprendre tout doucement, et je me dirige vers ce qui est le plus agréable pour moi, comme chaque être vivant sur la Terre. Donc un peu optimiste quand même.
Merci. Moi, je voudrais juste, hier soir, on a regardé un film. Ce film s'appelle « Schooling the World ».
Un documentaire,
oui, qui est vraiment, vraiment à voir. Alors, on n'était pas nombreux, mais les gens qui ont pu le voir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et en fait, on a envie de lancer un petit appel concernant ce film. En fait, il n'y a pas de version française. Enfin, je veux dire, par là, il n'y a pas de doublage son en français. Et en fait, moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien constituer un petit groupe. Des gens qui aiment travailler avec leur voix pour arriver à faire un doublage son qui va être pirate, hein, ça c'est clair. Hein. un doublage son de cet excellent documentaire, voilà.
Qui parle de la scolarisation dans le monde et donc de la colonisation par la scolarisation. La colonisation externe et interne.
Et interne, voilà. Parce qu'en fait, la première réaction qu'on a en ayant vu ce film, c'est de constater comment l'homme blanc, l'homme occidental, a exterminé, on va dire, beaucoup de cultures humaines de par le monde avec cette idée d'éducation. On oublie une chose. Alors donc du coup dans ce film on constate que les gens, les locaux comme on dit, ont perdu leur capacité à être autonomes, à savoir cultiver, récolter les plantes dont ils dépendaient avant, et en fait on les forme à l'école à utiliser des produits manufacturés, des machines, et quand ils reviennent chez eux, ils sont incapables d'y vivre chez eux. Ils ne savent plus s'adapter et tirer nourriture de leur milieu naturel, de leur ancien milieu naturel. Mais finalement, chez nous, ici, en Europe, ou aux États-Unis, ou dans les pays occidentaux, on en est réduit au même point. Et c'est d'ailleurs de la recherche de cette autonomie, de la recherche de son pouvoir d'exister, qu'il est question à la ZAD. Donc moi je vous conseille de voir ce film, et s'il y en a qui sont intéressés pour arriver à le passer en version française, voilà. Vous en faites part à Radio Klaxon et on verra ça.
Et bah, il y avait l'idée de s'arrêter là, ça fait un bon moment qu'on parle, et puis merci beaucoup d'être intervenu. Oula, j'ai oublié le français, je désapprends. On invente une nouvelle langue avec une nouvelle grammaire et tout ça. Et on va terminer avec C'est les vacances, une petite chanson. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose?
Oui, ben, puisqu'on parle des vacances, il y a un livre de Christiane Rochefort qui s'appelle Encore heureux qu'on va vers l'été. Et c'est, alors j'en dis trois mots, c'est l'histoire de jeunes qui en classe en ont vraiment ras-le-bol de se faire rabaisser. Et un jour, ils décident un truc. Hein, si la prof de français, je crois, ou d'anglais, leur dit encore une fois qu'ils sont nuls et tout ça, ils se lèvent et ils se tirent. Et ce jour arrive et ils se tirent. Voilà, j'en dis pas plus.
D'accord, bah merci, ça donne envie de le lire.
Du coup, moi, je voulais te dire merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et merci pour ces belles rencontres qui m'aident aussi à vivre. Merci.
Oui, merci pour l'accueil à la ZAD. Chouette expérience.
Eh bien, attendez, il y a une personne qui va rajouter une chose.
Merci aussi.
Alors, par contre, pour envoyer un message, c'est au 07 30 53 38 06 70.
Merci, c'est bien de le rappeler. Et bah, c'était Radio Klaxon 107.7 avec Mélissa et les gens du GREA. Et bah, merci et restez avec nous. Après, il y aura une programmation. Après, c'est les vacances et après, il y aura une programmation musicale comme d'habitude.
C'est les vacances, fini la pénitence, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu.
Range tes plumes et oublie tes crayons. Aujourd'hui, c'est les vacances. Oublie tes devoirs et oublie tes leçons. C'est la belle vie qui recommence. Cache tes livres aussi loin que tu peux. Aujourd'hui, c'est les vacances. Change tes notes et ma foi si tu veux. C'est la belle vie qui recommence. Elle a sonné l'heure de la chose, l'heure toute de ciel, l'heure toute de bleu. C'est la journée de ta revanche, les cahiers au feu et les maîtres au milieu. Adieu zéro et adieu punition. Aujourd'hui, c'est les vacances. Adieu grand-mère et adieu addition. C'est la belle vie qui recommence. Prends ton cœur et reprends tes chansons. C'est la... la belle vie qui recommence. Pas mon petit vieux, t'as le droit d'être heureux. Les cahiers au feu et les maîtres au milieu. Les cahiers au feu et les maîtres au milieu.